Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Ouais, tous les soirs, toutes les fins de semaine, on en mange du hockey, c'est le cas de le dire. Et dans le buffet très garni de la fin de semaine avec les matchs en plein air et le retrait du chandail de Jaromír Jágr, ben, clairement, c'est le retrait du chandail de Jágr qui a été mon fait saillant, littéralement. Replongeons-nous dans un moment de la cérémonie où il parle de son week-end de rêve avant d'accueillir notre prochain invité.
I gotta say, what a weekend so far. That's beautiful so far. I had a practice with the team. I was pretty good, let me tell you. I was pretty good.
He said, I was pretty good, let me tell you. Et il était sur la glace pour l'entraînement de samedi, pour le warm-up ou la période d'échauffement d'hier. Semble avoir éprouvé beaucoup, beaucoup de plaisir à côtoyer le grand numéro 68, Jaromír Jágr, pendant tout le week-end, comme ses coéquipiers, nul autre que le Québécois Chris Letang, qui est avec nous en direct ce soir. Salut, Chris!
Salut, ça va?
Ça va très bien. Toi, parle-moi de ta fin de semaine avec Jaromír Jágr et toute l'équipe et l'organisation des Pingouins.
Ah, c'était incroyable. Comme le feeling alentour de lui puis de la chambre de hockey quand il était présent avec nous, c'était juste un magique, si on peut utiliser le mot. Le fait qu'il a embarqué sur... J'ai trouvé que, tu sais, j'ai vu beaucoup de chandails qui se sont fait retirer des cérémonies de cette sorte. Et je trouve que celle-là était vraiment spéciale. Puis je dis pas ça parce que c'est les Pingouins, là. Je dis ça parce que le fait qu'il a pratiqué avec nous, qu'il a fait le warm-up, il a fait un tour à la fin du warm-up avec la foule. Tous les joueurs sont restés sur la glace pour voir ça. C'était un week-end assez incroyable. Puis le fait qu'il s'assoit dans la chambre, qu'il jase avec les gars, qu'il parle de hockey, puis qu'il est encore aussi passionné, puis d'essayer de nous donner des trucs sur le powerplay, sa vision des choses. C'était spécial.
Ben, je vais te dire, moi, je le regardais à distance, sur mon ordi, sur le web, écoute, puis on en a vu des cérémonies, on s'entend, Chris, il y a pas une place comme il y en a eu autant qu'à Montréal. Et j'ai trouvé que c'était incroyable. Honnêtement, là, c'est comme, j'ai suivi ça, là, comme c'était bien alimenté sur les plateformes des réseaux sociaux de l'organisation. Puis j'avais beaucoup de plaisir aussi à vous voir avec lui. Est-ce que tu le connaissais beaucoup? Puis, tu sais, on est intimidé, parfois les jeunes sont intimidés de vous rencontrer, vous êtes des étoiles de la Ligue. Lui, c'est une superstar de l'histoire de la Ligue. Comment vous vous sentiez face à lui là, en faisant connaissance pour ceux qui le connaissaient peu?
Ben, en fait, il n'y a pas beaucoup. Je pense pas qu'il y a des gars qui ont eu des interactions avec lui. On a tout le temps joué contre, puis après ça, il est retourné en République tchèque. Donc, on n'a pas eu vraiment la chance de passer du temps avec. Mais pour la première fois, on pouvait vraiment jaser et tout. Puis, tu sais, que ça soit Sidney, que ça soit Evgeny, les gars, on voyait les étincelles dans les yeux des gars comme si on était des petits bonhommes de 7-8 ans là qui vont sur le bord de la bande voir leurs idoles. Puis de le voir comme ça, c'était comme j'ai dit, c'était comme magique, comme fin de semaine.
Tu patinais autour samedi avec lui, puis t'avais la perruque comme vous aviez tous. Tu sais, ce que j'ai aimé aussi, là, c'est que c'était pas trop solennel. Il y avait de l'humour dans tout le week-end, Chris. Je pense pour ça que c'était spécial. Peut-être à l'image de Jágr lui-même. Tu sais, on sentait pas que c'était coincé comme week-end et comme cérémonie.
Ouais, ben en fait, tu sais, les speeches, c'était pas, comme on dit, formel, avec un peu coincé ou pincé. C'était vraiment basé sur le mot, le type de personne que c'était. Puis nous, en tant que joueurs, quand on grandissait, on était petits, on voyait les highlights puis les choses qu'il faisait sur la patinoire. On connaissait pas vraiment son histoire derrière les rideaux, comme on peut dire, avec le fait qu'il parlait pas anglais quand il est arrivé dans la ville, comment il était accueilli, quel genre de personne puis ta personnalité, c'était hors de la glace.
C'est étiquette de vitesse.
Ouais, c'est étiquette de vitesse, le fait que, tu sais, même il y a les joueurs, comment ils te décrivaient, tu sais, il avait pas besoin de parler, juste son charisme, sa présence avec les gens, ça parlait par soi-même.
Là. Toi, jeune, tu portais le 68, Chris, là. Fait que c'était Jagger, ton homme. C'est ça que tu lui disais samedi à l'entraînement, patinant à côté de lui.
Ouais, ben en fait, tu sais, ça faisait un petit bout que je voulais. Parce que quand on a joué contre, quand il a joué dans les autres équipes, j'ai toujours été pas gêné, mais je voulais pas déranger. T'sais, on était dans un mode travail, puis on jouait contre, puis je voulais pas demander quoi que ce soit. Mais moi, toute ma jeunesse, quand j'ai pu choisir mes numéros, ça a toujours été Jagger. Je faisais même sa célébration. Puis le 68, ça a toujours été mon chiffre. Puis j'ai fait, justement, mes choses étaient dans un storage. J'ai fait sortir mes chandails de mon storage parce que les pingouins m'ont dit « Est-ce que t'as les chandails? » T'sais? Puis je les ai fait sortir, puis on leur a envoyé la photo. Puis samedi, je savais que le dimanche, ça allait être une journée émotive, puis ça me tentait pas de la chaler avec ça. Il allait en avoir bien en masse de toute cette journée-là, fait que je voulais prendre la peine le samedi de lui expliquer la situation, puis de vouloir lui demander un petit quelque chose. J'ai fait ça en portant sa perruque, en plus.
En plus, t'as été le premier, je sais pas s'il savait que tout le monde aurait une perruque le dimanche, dans le warm-up, je pense que ça vient une perruque à Christopher, mais samedi, ouais. T'es le premier qui ose, t'avais-tu une petite gêne d'être le premier comme un peu à faire de l'humour avec ça devant lui, c'est quand même lui la légende, là?
Ouais, non, honnêtement... Les gars, tu sais, il y en a qui sont un petit peu plus gênés que les autres, mais ma personnalité, j'aime ça, garder quand même ça
relax.
Léger. Ouais, les journées de pratique, donc ça me tentait de faire un petit tour comme ça, mais il faisait vraiment chaud en dessous de ça, il l'enlevait assez vite.
Je comprends donc. Et sais-tu quoi que je me disais? Tu sais, quand il dit dans son speech hier d'avant-match que « I was pretty good », j'avais vraiment le feeling, Chris, que, tu sais, lui, là, si on lui avait dit « Hey, on a un blessé de dernière minute, tu peux-tu jouer? » J'ai l'impression que dans sa tête, c'était son rêve encore de rejouer un match en ligue. Si je me trompe-tu, as-tu ressenti ça? Tu sais, il a l'air d'avoir tellement de plaisir sur des patins.
Ah, c'est incroyable. Puis même quand il a embarqué dans le warm-up, tu sais, c'est pas comme ça a été demandé à la dernière minute. Là. Lui, il voulait vraiment faire ça. Puis à la fin, on voulait vraiment qu'il fasse un dernier tour, tu sais, sur la glace du PPG Paint Arena. Puis le voir, tu voyais vraiment qu'il profitait du moment, là, puis ça, c'était émouvant pour lui de toucher cette glace-là devant tous ses fans-là, parce que je veux pas, les Pingouins, tu sais, c'est quand même une équipe qui a gagné dans le passé, puis qui a eu, ils ont eu des belles années avec des belles équipes remplies de superstars. Tu vois que la ville, c'était émouvant pour tout le monde dans le building.
Oui, puis même pour les gens qui regardaient ça à distance, parce que, tu sais, il a pas arrêté de jouer, il joue encore avec l'anneau, fait que un hommage comme ça permet de prendre la juste mesure de ce qu'il a représenté pour la Ligue. Et comme si t'en avais pas eu assez de ce week-end-là, Chris, j'ai su que t'avais pris le petit déjeuner avec Maxime Talbot et Jaromír Jagr aujourd'hui même.
Ouais, ben dans le fond, Max il était à l'hôtel, puis on est descendu de ma maison à l'hôtel avec mon ami pour aller voir Max, puis en même temps, Jaromír est venu prendre un petit café avec nous ce matin, puis c'est quand même assez incroyable. On a parlé de son speech parce que tout le monde a vraiment apprécié comment il a fait ça, puis l'humour, comme tu as dit, mais le fait qu'il passionné, puis on a parlé de la game, on a parlé du genre de style de jeu en ce moment qu'il joue dans la Ligue nationale comparativement à avant. Tu vois qu'il y a encore une passion là, incroyable en lui. Il veut aider les jeunes. Je vais dire que je suis jeune parce qu'à côté de lui, je suis jeune, mais
t'es jeune.
Dans la vie, peut-être pas, là, mais peut-être tu le voyais que ça le prenait à cœur. Il voulait, mettons, me donner des conseils puis de me parler de la game. Tu vois, la passion là, est encore très, très présente.
Tu penses-tu que de ce week-end-là, il va vous rester quelque chose? Les gars, ça glace. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, je veux pas charrier non plus, mais tu sais, des fois, au contact de quelqu'un, de la passion de quelqu'un, je sais pas. Tu sais, vous allez en parler encore en boys, vous allez décanter ça encore pendant quelques jours. C'était un gros, gros week-end dans l'histoire de l'organisation, mais tu sais, tu penses-tu qu'il vous a laissé quelque chose de conscient ou d'inconscient? Un petit leg, ne serait-ce que d'attitude ou quelque chose dans le genre?
C'est sûr que durant son speech aussi, tu sais, il a beaucoup parlé de ses coéquipiers, l'aide qu'il a reçue de ses compatriotes de son pays. C'est vraiment le message qui a passé à ce moment-là, c'était que en équipe, tu peux accomplir de grandes choses. Ça se fait pas tout seul, ces trophées-là, la Coupe Stanley, le trophée Hart. Et tu sais, c'est vraiment quand une équipe se soude puis qui est vraiment ensemble. Ça donne des résultats comme ça. Donc, ce message-là, il a vraiment été véhiculé dans notre vestiaire. Mais quand tu vois quelqu'un qui a autant de passion, puis je vais toujours prendre comme exemple Sidney Crosby, c'est contagieux. Ça, les jeunes qui voient ça, tout de suite, tu le vois, ils haussent le ton, pas haussent le ton, mais ils montent leur jeu d'un cran. La passion que ces gars-là ont est tellement contagieuse que ça pousse tout le monde à s'améliorer et à être meilleur.
Et tu fais bien de mentionner Sidney. Je sais pas c'était quoi le contact entre les deux, mais tu sais, de voir là, il y a eu plusieurs prises de photos, dont toi avec Gino, Sidney, Yaromir, il y a eu ensuite Gino. En tout cas, il y a eu des photos que vous allez tous garder là, dans vos pièces spéciales à la maison. Mais Sidney, 31 buts, 24 passes, 55 points. Il a toute une année. Collectivement, c'est pas les résultats que vous souhaitez. Fait que je sais pas si c'est un message qui arrive au bon moment, même si vous avez plein de leaders positifs qui incarnent ça, là, le fait de vraiment travailler fort puis de jouer en équipe, parce que vous aviez beau avoir les meilleures intentions du monde, Chris, une ligue compétitive, c'est pas facile de rester dans le portrait des séries, hein?
Non, en effet. Donc, je pense que cette fin de semaine-là, il y avait beaucoup d'émotions sur la glace. Notre capitaine, en ce moment, est en train de prouver que l'âge n'est qu'un chiffre. Ça n'affecte pas vraiment ses performances. Il est encore au sommet de son art. Mais une fin de semaine comme ça, ça peut donner une belle poussée là, pour la fin de la saison, pour essayer de faire les playoffs.
Qu'est-ce qui est le plus difficile? Je veux pas te retenir trop longtemps, Chris, mais qu'est-ce que tu considères le plus difficile? Tu as fait partie d'équipe championne à plusieurs reprises avec ces mêmes pingouins là. Puis bon, il y a des cycles, les gars, vous rajeunissez pas, mais vous demeurez fiers, compétiteurs. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile d'aller chercher la victoire comparativement aux années où tout roulait pour vous autres?
En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La game de hockey a beaucoup changé. Comment elle est jouée, c'est beaucoup moins collectif, c'est beaucoup plus basé sur les habiletés individuelles, si on pourrait dire.
Ah, OK, intéressant. En saison surtout?
Surtout en saison. Mais ce qui est le plus dur, en fait, là, c'est... Veux pas, il y a l'âge qui d'habitude qui aide pas, mais dans le cas de Sidney, mettons, ça paraît pas énormément. Mais le fait que le cap salarial n'a pas bougé, t'as besoin d'aide, t'as besoin de nouveaux joueurs, c'est un petit peu plus difficile. Donc, faut que tu essaies d'avoir des bons jeunes joueurs qui arrivent de ton repêchage ou des collèges américains qui essayent de tout de suite avoir un impact sur ton équipe. Donc, tu sais, de rester compétitif, c'est de plus en plus dur aussi. Là.
Très certainement. Vous affrontez le Canadien jeudi cette semaine et les Islanders demain. Je sais pas si tu connais bien Patrick Roy. Vas-tu aller faire un petit coucou sur le bord du banc lors de la période de réchauffement, Christopher?
J'ai jamais eu la chance de rencontrer Patrick, en fait. Donc, on va peut-être aller faire un petit coucou.
Tu vas penser à ça. Tu vas regarder s'il est de bonne humeur avant le game.
Ouais, on m'a checké s'il est de bonne humeur avant.
Quelque chose dans le genre. Puis, juste en terminant, une dernière. De tout ce que tu as vécu en fin de semaine, là, mettons que tu vas raconter à tes amis et à tes enfants dans des années, je veux dire, y a-tu un moment préféré entre le déjeuner de matin, la pratique de samedi, puis tout ce qu'on n'a pas vu peut-être?
Un moment préféré.
Un moment magique.
Ouais.
Ben, c'était tout magique, en fait, mais.
En fait, ouais, tout était magique. Mon déjeuner, tu sais, j'ai apprécié parce qu'on a échangé énormément. Mais, je te dirais que après qu'il ait fait le warm-up, nous, on a eu un. Juste avant d'embarquer pour la première période, il était en train de se préparer pour monter dans sur la passerelle pour écouter le match. Puis il est venu me voir. Puis, tu sais, il m'a serré, il m'a comme fait un accolade. Puis il m'a dit, là, Chris, asseoir, shoot la puck, aie pas peur, bouge tes pieds. Puis, tu sais, il me donnait des. Il m'a comme donné des petits points clés. Puis il dit, arrête d'être généreux, shoot la plus. Ça va t'aider à marquer plus de buts. C'est des petits conseils comme ça de joueurs qui ont joué aussi longtemps et qui ont été une légende, comme on dit. Ça fait c'est toujours spécial quand tu entends ces petites choses-là. Puis ils prennent le temps de le faire. Il n'est pas obligé de faire ces choses-là.
Hey, puis parlant de pas obligé, je sais pas comment Max Talbot se sentait, lui qui joue plus pour les Pingouins, quand dans son speech, il le mentionne. Là, vous avez déjeuné ouais. Trois ensemble. Écoute, c'est vraiment spécial. Moi-même, comme Québécois à distance, j'étais touché pour Maxime. Il a dû l'être.
Ah oh non, c'est certain. Max, en plus, c'est un gars. Que partout il a passé, les gens se rappellent de lui. Il a tellement une présence, le fun dans le vestiaire. C'est un guerrier quand il va sur la glace. Il est prêt à tout pour ses coéquipiers. Dans la chambre, il est loose, il a du fun. C'est contagieux. Donc, c'est sûr qu'il a marqué probablement Yaromir, puis c'est pour ça qu'il l'a mis dans son speech. Mais pour que, justement, il l'ait mentionné, Max a dû être sûrement très touché.
Aucun doute. Ben Chris, merci beaucoup de ces belles minutes. Bonne fin de saison. Puis oublie pas ce que Yaromir t'a dit. Shoot la fois!
Ouais, exactement.
Merci, Chris, au nom de tous les auditeurs. C'est toujours apprécié. Bonne fin de saison.
Merci à vous.
Bye. Au revoir. Chris Letang, des Pingouins de Pittsburgh.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Je parlais d'un grand week-end pour la Ligue nationale de hockey dans l'ensemble avec ses matchs en plein air et le retrait du chandail de Jagr, mais grand week-end également pour la LPHF, particulièrement pour notre équipe de Montréal qui a été impliquée dans un record d'assistance établi à Toronto vendredi, 19 200. Malheureusement, une défaite vendredi à Toronto, mais retour à domicile hier dans un centre, dans une place belle remplie à capacité, 10 100, donc un total de 29 300 spectateurs pour ces deux matchs-là. Et avec nous, une des attaquantes de l'équipe de Montréal, Catherine Dubois, qui est là. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien. Dis-moi, comment vis-tu ton rêve? Parce que tu vis un rêve en ce moment, là, toi qui viens de passer des contrats de 10 jours à un véritable contrat pour la saison complète.
Oui, ben en fait, je suis vraiment soulagée. Je pense que le stress a enfin quitté un petit peu, là, mais non, c'est vraiment un soulagement. Puis, ça vient d'arriver, là, fait que je pense que je vis encore les émotions. Je suis un petit peu encore sous le choc. Il faut comme je me pince un peu là, pour voir que c'est réel.
Tu as eu tout un parcours. Puis juste avant de revenir sur le fait que vous avez joué des matchs devant des salles combles en fin de semaine, toi, Catherine, à un moment donné, ton rêve a été compromis par ton état de santé au fil des ans. Ça t'a empêché de prendre part à de grosses compétitions, n'est-ce pas?
Oui, en fait, la première fois que j'ai su que j'avais une petite condition au rein, je rentrais à l'hôpital à Notre-Dame en même temps que je recevais l'appel de Mélodie Davidson de l'équipe canadienne que je partais pour les quatre nations. Fait que j'ai dû dire que je pouvais pas y aller puisque je rentrais à l'hôpital à ce moment-là.
Ah oui, puis est-ce que ça t'empêchait de prendre part à d'autres compétitions? Est-ce que ça t'a ralenti dans ta progression?
Non, je pense que oui, par après, c'était difficile de revenir, puis tu sais, j'ai été malade d'un petit bout pendant cette année-là, puis après, le côté psychologique, la chose a embarqué, donc ça a été un petit peu un moment chaos là, dans ma vie. à ce moment-là.
Tu vas avoir 29 ans en juillet prochain et t'es né un 29, fait que ça, tu vas entrer dans ton année chanceuse, mais là, on dirait que c'est plus que de la chance, t'as travaillé très, très fort, mais qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer dans cette ligue-là?
C'est un rêve, là. C'est vraiment un rêve en ce moment, ce que je vis, mais aussi... faut penser à tous les femmes avant nous qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, on peut vivre ce rêve-là. Fait que je suis vraiment reconnaissante aussi. Je pense que c'est vraiment le mot. C'est, je suis choyée, reconnaissante envers tous les gens qui ont fait en sorte que ça puisse être réel pour nous autres, ça puisse être une réalité pour nous.
Qu'est-ce qui vous a permis de gagner ça à votre retour à la maison hier? Vous avez quelques foyers, quelques domiciles avec Verdun et la Place Belle, mais façon de parler, devant une Place Belle remplie, là, c'était quoi l'ambiance avant d'entrer sur la patinoire dans le vestiaire après une défaite vendredi à Toronto?
Ah ben c'est sûr qu'on voulait gagner ça à la maison. Là. Nos fans sont tellement incroyables, sont vraiment là pour nous, puis ils nous donnent beaucoup d'énergie, puis tu sais, de venir à la maison, puis de gagner à la maison, c'était vraiment important pour nous, puis je pense que c'était surtout important de rebondir après la défaite de vendredi.
Ouais. Aimez-vous ça, jouer à la Place Belle devant une telle foule?
Oui, c'est vraiment incroyable, là. On regarde dans les estrades, puis tout ce qu'on voit, c'est comme une marée de gens, là, fait que c'est vraiment impressionnant.
Qu'est-ce que ça te fait de jouer pour Montréal dans cette ligue-là? Tu sais, t'as joué dans d'autres équipes, là, mais tu sais, c'est veux pas, c'est la structure la plus sérieuse d'avoir été mise sur pied dans l'hockey féminin.
Ah ben c'est vraiment spécial en tant que Québécoise de jouer à Montréal. Là, en premier, ça c'est super. C'est vraiment une fierté pour moi de jouer au Québec, à Montréal. Puis c'est sûr que on a un beau cadre d'entraîneur aussi. Puis Danielle qui est vraiment une bonne directrice générale. Là, je crois que on est vraiment choyé d'être à Montréal. J'aurais pas aimé jouer ailleurs qu'à Montréal.
Est-ce que vendredi, malgré la défaite dans l'avant-match hymne national, tout le match de 19 200 spectateurs, record pour le hockey féminin, record absolu, as-tu eu un petit frisson? Peut-être autant hier à Laval, là, mais comment au niveau des émotions, vous ressentez ça, les filles? Comment vous le vivez, cet aspect-là, de voir que hey, ça marche, c'est pas comme, tu sais, les gradins là, sont pleins, là, on fait pas semblant, là, sont pleins, là.
Ah non, c'est sûr. On a eu des frissons, je pense, tout le match. Là. Je veux dire, c'était tellement bruyant là à Toronto. C'était incroyable. On pouvait même pas s'entendre parler sur la glace. Là. C'était vraiment incroyable. Puis tu sais, c'est vraiment l'accomplissement de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail, puis de beaucoup de gens qui ont fait en sorte que ça peut être réel. Puis tu sais, c'est sûr qu'on veut que ça se maintienne. C'est ça l'objectif. Puis ce qu'on vit en ce moment, c'est hors de... On s'attendait que ça marche, mais je pense pas qu'on pensait que ça allait marcher autant.
T'as convaincu ta coach et ta DG de te donner un contrat à plus long terme qu'un contrat de 10 jours. Là, ça doit être très gratifiant de sentir que tes performances ont convaincu ceux qui décident.
Oui, c'est sûr que c'est vraiment gratifiant, mais aussi, je suis vraiment reconnaissante qu'ils ont pris une chance sur moi. Tu sais, moi, cet été, je pensais prendre ma retraite, là. Fait que juste d'avoir l'invitation au camp, c'était déjà un exploit pour moi. Puis, maintenant, d'avoir un contrat, je suis vraiment reconnaissante envers elle qui me donne une chance puis qui me fasse confiance.
Peut-être question indiscrète, mais est-ce que tu travailles parallèlement? Est-ce que tu as un autre emploi? Quand tu dis possibilité de prendre ta retraite, est-ce que tu avais déjà la tête ailleurs?
Oui, en fait, mon père a une compagnie de maçonnerie à Québec, donc je suis maçon l'été.
Ah.
Oui, je fais ça depuis quelques années maintenant, puis depuis que j'ai 10 ans, je travaille avec mes deux grands frères également, puis mon père. Mon grand-père avait une compagnie aussi de maçonnerie, donc...
Une entreprise familiale, c'est le fun, puis y a-t-il d'autres athlètes dans la famille? Catherine Dubois qui est avec nous en conversation, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont joué du sport de haut niveau, père, mère, frère?
Mon père, junior majeur, Stéphane Dubois, puis mes frères aussi ont joué quand même assez haut niveau. Ouais. J'ai joué grâce à eux.
Ah ouais, puis là, est-ce que tu as le soutien de toute la famille, j'imagine?
Ah oui. Ouais. Oui, j'ai toujours eu leur soutien depuis le premier jour que j'ai mis ce vieux sur la glace. Ils m'ont suivi partout, puis ils ont toujours été derrière moi.
Wow. Je termine en te demandant, bon, je sais pas jusqu'à quel point, peut-être que vous connaissez toutes, vous êtes toutes déjà des intimes, fait que peut-être que la question ou de jouer avec Marie-Philippe, c'est pas du nouveau pour toi, mais dis-moi pour celle, peut-être pour qui c'est nouveau, qu'est-ce que ça représente de jouer avec celle qu'on étiquette comme la meilleure au monde?
Même si tu connais Marie, je veux dire, avec son niveau de hockey, c'est toujours impressionnant de jouer avec elle. Je veux dire, c'est tellement une joueuse incroyable. Je veux dire, on a toujours un petit stress de jouer avec elle, mais tu sais, c'est tellement une bonne personne, elle lui met en confiance, puis tu sais, moi, elle me parle beaucoup, puis je me sens vraiment bien avec elle, et elle vient pas nous, tu sais, elle veut qu'on se sente bien, puis tu sais, elle veut qu'on réussisse, puis c'est vraiment une fille d'équipe, donc c'est sûr que c'est spécial, je pense que c'est des, peu importe qui joue avec Marie, je pense que c'est vraiment un moment spécial pour tout le monde, puis on veut juste l'aider à performer.
Ben, Catherine, bonne fin de saison à notre équipe de Montréal dans la LPHF. Bravo pour ton contrat donc officiel de plus de 10 matchs. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner rendu en série, mais pas trop vite. On va laisser la saison se poursuivre. Merci de l'entrevue et à la prochaine.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Bye, Catherine Dubois. Donc, c'est intéressant de savoir un petit peu d'où les filles viennent également. Et elles sont très attachantes. Alors, on vous parle de leur prochain match bientôt. Et au retour, on s'en va en Floride retrouver notre ami Philo qui, lui, assiste au camp d'entraînement des Blue Jays de Toronto.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Notre ami Jérémy Filosa, Philo, est allé faire un tour en Floride, assister à quelques jours du camp d'entraînement des Blue Jays de Toronto. On l'y retrouve sur place, en direct. Bien le bonsoir, Jérémy.
Salut Mario.
Alors comment ça s'annonce la prochaine saison des Jays après avoir rêvé d'accueillir Shohei Ohtani? Disons qu'on est revenu sur la terre. Ça veut pas dire que ça va être une année qui va être inintéressante. Loin de là, il y a un noyau fort, fort alléchant qui fait l'envie de bien des clubs dans le baseball majeur. Mais qu'est-ce que tu constates sur place? Quelles sont les ambitions des Jays cette année?
Ben, écoute, la première chose, c'est qu'au camp d'entraînement d'une équipe du baseball majeur, tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde, il n'y a personne qui a perdu un match, donc tout le monde a le sourire. Mais, tu sais, on va se le dire, c'est un entre-saison mi-figue, mi-raisin, parce que après avoir tenté d'aller chercher Shohei Ohtani, et ça n'a pas fonctionné, on s'attendait à d'autres acquisitions de plan B. Mais finalement, c'est pas des plans B qu'on a mis sur place ou qu'on est allé concrétiser. C'est des plans C puis des plans D. On va se le dire. Tu sais, il y a personne qui a signé un contrat à long terme. Tu sais, on est allé chercher un gars comme Justin Turner pour une saison, un vétéran de 39 ans qui va donner un coup de pouce comme frappeur désigné et tout ça. Mais je pense que la majorité des gens ont un gros point d'interrogation à la Est-ce qu'elle sera améliorée? C'est des questions qui sont
Jérémy,
justifiées.
On a des problèmes sonores. Peut-être que je pense que tu vas nous rappeler peut-être sur ton téléphone régulier, si tu le veux bien. OK, très bien. Alors, pendant ce temps-là, on va écouter Justin Turner. Parlant de Justin Turner, donc le vétéran, qui se dit très heureux et excité de jouer aux côtés de Bo Bichette et Vladimir Junior.
Not necessarily in spring training. I had some guys during the season last year saying that I should come over here. So I obviously heard Bo's interview, talking about wanting to get me over here, which was pretty cool. And we have the same agent too, so there was some of that dialect. So, but no, the process was more with Schneids and Ross and sit down. I think we had one Zoom and then multiple conversations after that.
Standing at the cage with.
Donc c'est le vétéran Justin Turner, l'ancien notamment là, des Dodgers pendant de nombreuses années, l'ancien des Mets également et plus récemment des Red Sox. Donc tu sais c'est un plan C, mais ça reste un bon joueur de baseball. Qu'est-ce qu'il explique exactement là? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est retrouvé à Toronto? C'est à quoi son intérêt à lui?
Ben, premièrement, il nous a expliqué que c'était pas la première année que les Blue Jays et lui avaient des conversations. Donc il a failli se retrouver à Toronto dans le passé aussi. Ça a tout simplement pas fonctionné. Mais il a dit que les Blue Jays ont été l'équipe la plus sérieuse. Ça a été la seule équipe avec laquelle il a eu une rencontre en personne. Et ils ont vraiment expliqué à quel point ils voulaient l'avoir dans leur alignement. Bo Bichette a dit dans une entrevue cet hiver que ce serait une belle acquisition pour les Blue Jays s'ils allaient chercher un gars comme Justin Turner. Donc, je pense que tout ça a bien fonctionné ensemble. Puis, écoute, Turner, là, il est fantastique. Hein. Depuis qu'on est arrivé ici au camp d'entraînement, premièrement, très généreux avec les médias. Aujourd'hui, il doit avoir passé une demi-heure à signer des autographes, prendre des photos avec les partisans qui étaient sur place. Hier, je l'ai filmé. Là, les gens peuvent aller voir sur mon compte X, Twitter. J'ai partagé une vidéo de lui qui explique à trois jeunes. Il y a Kevin Biggio qui est là, mais deux autres jeunes des ligues mineures. Il parle de son élan. pendant plusieurs minutes.
Ah,
il
oui?
donne des trucs aux plus jeunes. Donc, il connaît son rôle, il sait pourquoi il est là.
Donc, ça peut être une présence extrêmement positive. Par ailleurs, ouais. Tu vas pas bien ben loin si t'as pas une bonne rotation de lanceurs. L'an passé, on se fiait sur Manoa, puis on n'a jamais été capable de le remettre sur ouais. les rails. Bon, lui, il dit que ça a été... psychologiquement, je sais pas comment il a composé avec ça, mais il revient en tout cas avec l'ambition de se réétablir comme un élément important de la rotation des Jays. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont comme rotation sur papier pour l'instant?
Ben, elle est excellente, la rotation. Honnêtement, là, pour moi, c'est déjà peut-être la meilleure rotation de la Ligue américaine. Avec Bassett, tu viens de le mentionner, Berrios, Kikuchi, Gosman. T'as quatre gars, là, que tu peux lancer au monticule à tous les jours qui peuvent te donner 5, 6, 7 bonnes manches, vont donner à ton équipe une chance de gagner. Si Manoa est capable de redevenir le lanceur qu'il était il y a 2 ans, ça va être une rotation extraordinaire, celle des Blue Jays. Donc, à ce niveau-là, juste à cause de la rotation, puis on n'a pas parlé de l'enclos de relève, mais juste à cause de la rotation, c'est sûr qu'ils vont être dans la course aux séries éliminatoires jusqu'à la toute fin. Il y a même le nouveau venu, Yariel Rodriguez, à qui on a parlé aujourd'hui, le Cubain. Je pense qu'on va le faire commencer dans l'enclos, mais lui, il l'a dit clairement aujourd'hui. Moi, je suis un partant, puis je veux, j'ai l'ambition d'être un partant dans cette équipe-là. Donc, il va peut-être avoir une petite bataille entre lui et Manoa pour savoir qui sera le 5e partant. Mais on a de la profondeur quand même chez les Blue Jays à cette position-là. On a même pu se permettre de laisser partir Hyunjin Ryu, qui a quand même donné de fiers services à l'équipe lorsqu'il est revenu de blessure l'année passée. Là.
Je sais pas jusqu'à quel point on croit vraiment au retour en forme de Manoa. Tu sais, je sais pas si c'est psychologique, si c'est du son bras. Tu sais, peut-être que on a vu le meilleur de lui. Peut-être que le meilleur de lui est derrière. Mais tant mieux s'il réussit à revenir au sommet. Comment tu vois ça?
Ben écoute, le gros problème l'année passée, c'était sa balle cassante. Sa balle cassante n'atteignait jamais la zone des prises. Et le mot s'est passé très rapidement dans le baseball majeur. Et dès que les joueurs décelaient que c'était la balle cassante qui s'en venait, ils ne s'élançaient pas. Il n'y a personne qui s'élançait sur la balle cassante, alors que dans les années passées, il faisait fureur avec sa balle cassante. Donc, l'année passée, on l'a renvoyé dans les ligues mineures. Il est resté là pendant quoi? 2 mois et demi approximativement. On l'a rappelé. Et lorsque Ryu est sorti de la liste des joueurs blessés, on l'a renvoyé une deuxième fois dans les ligues mineures, mais Mario, il s'est jamais pointé. Il s'est jamais présenté à son équipe 3A. Et là, l'équipe, bien sûr, déçue de tout ça, lui ont tout simplement dit, ben, va-t'en chez vous, puis on se reverra l'année prochaine. Mais là, présentement, tout le monde semble avoir mis cette histoire-là derrière eux. On semble vouloir vraiment lui donner la chance de s'accaparer cette 5e position dans la rotation. Ça demeure encore un très jeune lanceur.
Et
il nous a montré tellement des belles choses au début de sa carrière que je pense pas qu'ils sont prêts à abandonner sur lui. Là.
Non, c'est sûr que des bras, c'est rare, t'en as besoin. Fait que, puis de toute façon, il est sous contrat, alors on va persévérer. Maintenant, tu t'es entretenu, tu as participé à un point de presse avec le gérant, John Schneider, et tu lui as demandé ses premières impressions sur Vladimir Junior à l'entraînement. On va l'écouter, puis tu commenteras ouais. ensuite.
Parfait.
But yeah, first time I've seen him in a couple weeks. Good to have him here and get him rolling. He looks great. You know, I think the old best shape of your life, spring training. But, I mean, he put a ton of work in. And, you know, I love the way he looks, love the way he's prepared. And, you know, that's what really good players do. They kind of take ownership of everything in the offseason, and they're ready to go.
Alors, Altrain, vous êtes-tu le passant de vous deux? Je sais pas c'est
écoute,
quoi.
Écoute, c'était quand même assez bruyant là où est-ce qu'on faisait nos points de presse. C'était quand même venteux aussi. Mais Vladimir avait indiqué à l'équipe qu'il se présenterait demain. Finalement, il est arrivé avec une journée d'avance aujourd'hui. Je me promenais là parce qu'il y a 8 terrains adjacents. Et là, à un moment donné, je me retrouve sur un terrain. Oups! Qui est-ce que je vois sortir? Vladimir. Alors, il a pris des roulants au premier avec Biggio, Turner et aussi Beau Bichette. Alors, il n'a pas parlé aux médias aujourd'hui, il va le faire demain, mais l'entraîneur, vous venez de l'entendre, l'instructeur qui a dit, écoute, il est arrivé dans une meilleure condition physique, je pense qu'il est dans un bon état d'esprit.
À l'œil,
c'est sûr que demain...
À l'œil, Philo, là, c'est-tu, parce que ouais. Mané, j'ai vu une vidéo pas bien ben longtemps là, après la série mondiale, puis il avait l'air vraiment en forme, mais tu sais, bon, des fois, on va toujours prendre notre point de vue le plus avantageux, tu sais. Alors, mais as-tu l'air vraiment en forme, plus en forme?
Il a de l'air un petit peu plus en forme, mais c'est pas comme... Tu sais, l'année où il avait frappé ses 49 circuits, il s'était présenté au camp d'entraînement. Tu sais, il avait vraiment perdu beaucoup de poids. C'est pas à ce point-là, là, cette fois-ci. Tu sais, puis maintenant, c'est de voir Est-ce que ses déboires l'année passée, c'était à cause de son surplus de poids? C'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais surtout, l'année passée, il n'y avait personne pour frapper derrière lui. Les lanceurs ne lui donnaient rien de bon. Et je pense qu'avec Turner derrière lui dans l'alignement, ça va quand même l'aider cette saison. C'est important qu'il connaisse une grosse saison. On vous rappelle, là, Bichette et Guerrero, il leur reste 2 années de contrat avant l'autonomie complète. Ensuite de ça, ils peuvent signer avec l'équipe de leur choix. Donc, c'est des dossiers qui sont quand même assez pressants pour les Blue Jays.
Ben, un gros merci, Jérémy, de ton reportage. Et je te dis à très bientôt.
À bientôt. Salut, Mario.
Bye bye, Philo.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
Toute une fin de semaine, c'était pas le week-end des étoiles dans la Ligue nationale de hockey, mais il y a eu des étoiles puis des yeux qui brillaient à Pittsburgh notamment, et sans aucun doute au MetLife Stadium pour les 2 matchs qu'on appelle là, les classiques d'hiver ou les matchs en plein air. Quand on réunit au-delà de 150 000 spectateurs pour 2 matchs dans un même emplacement, je pense qu'on peut parler d'une réussite très certainement. Stéphane White est avec nous pour amorcer la semaine. Bonsoir Stéphane.
Bon début de semaine, Mario.
Hey Stéphane, pour toi, c'est quoi l'événement que tu as eu le plus de plaisir à regarder dans le calendrier de la Ligue nationale avec plusieurs matchs aujourd'hui, les matchs en plein air et le retrait du chandail de Jaromír Jágr? C'était quoi ton top à toi?
Ben moi, c'était la cérémonie de quand on a retiré le chandail de Jágr. C'était spécial. C'était le fun de voir tous les anciens des Pingouins qui étaient là se réunir sur la glace et puis un beau discours de Jágr, des fois émotif, des fois humoristique, mais ils ont bien fait ça. Les Pingouins ont très bien fait ça, et puis écoute, c'était mérité. Et puis c'est le fun de voir Jágr revenir dans la famille des Pingouins. Quelle carrière qu'il y a eu, un joueur que j'ai eu la chance de voir jouer en vrai, quand j'étais avec les Blackhawks, souvent. Et puis, écoute, tout un talent.
Tout un talent. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était tout un orateur également. Voici un extrait où il parle du grand 66.
When I was young, I was watching the TV and there was one guy totally dominating the game and he was better than the rest of them. And since that game, he became my idol and I wanted to be like him. And I make a wish. I wish one day we play together. Yes, it was Mario Lemieux. It did happen, 1990.
Et on se souvient de la suite avec les Coupes Stanley qui ont suivi. Quel duo ils formaient. Ben moi aussi, ça a été pas mal mon coup de cœur de la fin de semaine, la cérémonie. Malheureusement, les Pingouins ont perdu le match. Par ailleurs, 2 matchs en plein air, Stéphane. Bon, je sais pas si t'es comme moi. Il y a une espèce de lassitude qui s'installe. À moins de vouloir vraiment regarder, parce que bon, les Islanders luttaient pour les séries hier, ils luttent encore pour les séries. Les Rangers, c'est une séquence de victoires irrésistibles. Donc, l'intérêt hockey est là. Mais l'événement ouais. Plein air vient moins me chercher. Mais je constate que c'est un succès dans le marché où ils le font, cependant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? As-tu encore de l'intérêt?
Totalement d'accord avec toi. Moi, en fin de semaine, je ne me suis pas dit je vais regarder mes 2 jours pour regarder ces 2 matchs-là parce que c'est spécial. Non, c'est pas un match qui m'intéressait plus que n'importe quel autre dans la Ligue et pas parce qu'il était à l'extérieur qui m'intéressait le plus. Ça a déjà été le cas. Dans les premières années, on se souvient là, à Buffalo contre les Pingouins la première fois, le Canadien à Edmonton, et puis après ça, ça a été quand j'étais avec les Blackhawks, on avait joué au Wrigley Field contre les Red Wings. Les premières années, c'était spécial parce qu'on avait un par année, puis même pas un par année, et c'était des quelque chose de spécial. Mais maintenant, on a 3, 4, puis même 5 par année. Il y a 2 ans, on avait eu 5, et puis pour moi, c'est rendu beaucoup trop, mais il reste que pour les équipes locales, comme là, les équipes de New York et New Jersey en fin de semaine, ça, c'est encore un événement pour les marchés locaux. Mais je connais pas personne, j'ai pas croisé personne, moi, depuis 3 jours, de dire « Hey, Steph, je vais regarder ça en fin de semaine, là, c'est spécial, la classique hivernale. » Non, ça l'est plus. Et puis, écoute, ça reste le fun pour les marchés locaux. Ce serait le fun d'avoir un lieu à Montréal pour le vivre en vrai. Mais c'est quelque chose que quand tu l'as vécu une fois comme joueur ou comme coach, c'est comme tu correct. Tu n'as assez. Moi, je l'ai vécu 3 fois, 2 fois avec le Canadien. Et puis, c'est parce que c'est des matchs où les joueurs, la qualité de la glace est très ordinaire. La lumière du jour fait que c'est pas pareil pour les joueurs. T'as pas les mêmes sons. C'est très écho sur la glace. Les gardiens de but ont pas les mêmes points de repère à cause des gradins qui sont très éloignés. Et même pour les fans, Mario, quand t'assistes à cette classique-là, t'as pas de bon siège. Y a pas personne qui voit le match comme il faut. Mais l'ambiance, c'est le fun parce que c'est à l'extérieur. C'est le fun de le vivre une fois. Mais après ça, moi, je suis prêt à passer à autre chose.
Ouais, j'avais presque envie de dire, finalement, c'est une bonne affaire qu'on n'en ait pas, parce que c'est sûr qu'on remplirait ça, nous autres, à Montréal, un événement comme ça, ça se vendrait comme des petits pains chauds. Mais c'est plus d'assister à une grosse immersion, de prendre part à un gros bain de foule, une célébration du sport que le match comme tel. Parce que, moi, dire comme toi, même, je sais pas si toi, t'as fait Wrigley Field, une configuration dans un stade de baseball, t'as fait Foxborough, le stade des Patriots, plus hockey, plus favorable dans l'environnement du Wrigley Field ou de Foxborough?
Moi, j'ai aimé plus l'environnement du Wrigley Field. Premièrement, tout le monde connaît mon amour pour le baseball, puis un stade mythique. Mais au-delà de ça, on était plus proche. Les estrades étaient plus près de la patinoire. Tandis qu'au stade des Patriots à Foxborough, en Nouvelle-Angleterre, les fans étaient beaucoup plus loin de la glace. Donc, une atmosphère un peu moins bonne que celle que j'ai vécue à Wrigley Field.
Même à la télévision, je trouve que ça dérange un petit peu, parce que quand tu vois pas les spectateurs immédiatement le long des baies vitrées, mais tu vois comme toutes, tu sais, ils ont beau mettre toutes sortes de couleurs puis aménager l'espace entre les gradins et les baies vitrées, c'est comme, il y a quelque chose qui fait que tu décroches. Mais je dis pas que tu décroches parce que bon.
Non, t'as raison. Ouais. C'est pas pareil. T'as tellement raison. C'est pas l'ambiance d'un aréna où tout le monde est près de la patinoire. Et puis non, c'est pas le, c'est quelque chose de bien différent. Mais comme je te dis, c'est le fun une fois pour les marchés locaux, mais c'est pas quelque chose que
tu t'en es pas de ça. Non, je comprends, tu l'as vécu. Parlant du match comme tel, puisque ça impliquait les Rangers qu'on a vu jeudi contre les Canadiens et les Islanders qui tentent de se garder la tête hors de l'eau, quelle déception ça a dû être pour eux, parce qu'ils avaient ce match-là sous contrôle, puis ça a été littéralement un effondrement dû en grande partie aux nombreuses pénalités prises par les Islanders, une équipe qui a moins de talent que les Rangers, un peu comme le Canadien, souvent qui se retrouve en position de prendre des punitions, puis ils ont payé le prix, puis ils ont perdu le match, malheureusement pour les fans de Patrick.
Ouais, c'est une défaite qui fait mal pour les Islanders, premièrement. On sait tous qu'ils luttent pour une place dans les séries, mais quand tu perds en avance comme ça, ça fait mal. Mais le Canadien, les Islanders, souvent, bon, me font passer aux Canadiens, où que dans leur zone, c'est très difficile. Et puis, si Sorokin n'est pas très, très bon, les Islanders sont dans le trouble.
Alors, ça fait quand même pas mal de défaites, là. C'est difficile de partir sur une séquence victorieuse pour les Islanders. Ils n'ont gagné que 3 matchs. Le premier, je pense, c'était son premier match contre Dallas en prolongation, si ma mémoire est bonne. Et il n'a que 3 victoires. Les Islanders n'ont que 3 victoires depuis. Et 6 défaites. Mais la plupart du temps, ont été dans le coup, dans les défaites. Là, c'est des défaites d'un but, sauf celle contre Calgary, le 10 février. Voilà donc. Le Canadien, lui, jouait samedi, s'est entraîné hier. C'était-tu fréquent qu'on s'entraînait le dimanche plutôt que de prendre congé le dimanche?
J'ai trouvé ça assez spécial. J'étais tellement surpris. On pratique dimanche. Puis pas seulement on pratique dimanche, mais on pratique tôt quand on a joué la veille. On a pratiqué, je pense, à 10 heures au lieu quand tu joues le lendemain. Quand tu as joué la veille, souvent c'est 11 heures, puis même midi, j'ai vu. Mais là, le lendemain, de pratiquer à 10 heures et d'avoir une journée de congé le lundi, j'ai trouvé ça assez spécial. La seule chose que je peux voir, c'est que les gars voulaient avoir leurs après-midi de dimanche de congé et d'avoir une deuxième journée de congé, donc pratiquement presque 2 jours de congé.
On gère l'énergie des gars et donc tout, c'est pas de quoi que tu as vu, mais en tout cas, j'imagine que c'est pour le bien de l'équipe. On doit sentir le niveau d'énergie. Je sais pas si tu... Est-ce qu'on épiait ça autant? Je sais que dans l'Ouest, on était toujours très, très sensible. On a même des éléments de mesure pour calculer l'énergie que les gars ont dans le réservoir parce que les vols sont plus longs. C'est les Canucks de Vancouver qui ont développé en premier comme... C'est d'ailleurs la première équipe, si ma mémoire est bonne, à avoir eu son avion dans le temps pour contrer les effets parlait de la fatigue, des nombreux voyages, mais là, évidemment que la science s'est développée pour connaître ce que les gars ont dans le ventre, ce qu'ils ont à donner pour un match. Il y a des soirs qu'avant un match, tu le sais que les gars ont rien en tank, Stéphane. Je sais pas si vous mesuriez ça, vous autres.
Ben, c'est clair. C'est le gros défi à cette période-ci de l'année. C'est de gérer le repos et gérer le niveau d'énergie des joueurs. Et c'est très, très, très difficile, surtout quand tu voyages beaucoup. Et c'est pour ça que les Canucks avaient été les premiers, tu fais bien de le rappeler, de se soucier de ça en engageant un spécialiste du sommeil de récupération. Et c'était les premières équipes à le faire. Et puis, après ça, la plupart des équipes de la Ligue nationale ont suivi qu'est-ce qui s'est sorti de ces études-là. Et puis, c'est pour ça que souvent, maintenant, quand on va dans l'Ouest, quand on allait dans l'Ouest, on part 2 jours, puis même 3 jours, si c'est possible, si l'horaire nous le permet, à cause de rattraper ce fameux décalage horaire-là. Mais c'était un gros défi pour toutes les équipes de la Ligue nationale rendues au mois de février, où tu es rendu à 54 matchs de jouer depuis le début de la saison. Et faut pas oublier aussi que la plupart des joueurs, je serais prêt à gager beaucoup, beaucoup là-dessus, c'est la plupart des joueurs rendus à ce stade-là de la saison ont tous des bobos à quelque part. Oui. Tout le monde. Et c'est très...
exigeant.
Souvent, moi, Carey me disait souvent, des fois, ref is a weapon. Hein? Le repos est une arme. Et puis, des fois, c'est pour ça qu'on donnait beaucoup de congés à des joueurs qui jouaient beaucoup, dont Carey, bien entendu. Parce que, des fois, c'est pas mal plus payant qu'ils restent à l'extérieur de la patinoire, qu'ils fassent des traitements préventifs, que être sur la patinoire pour absolument zéro. Pas parce que tu vas faire 45 minutes de plus à Atlas aujourd'hui, tu vas être meilleur. Non, tu vas être meilleur probablement si tu es reposé.
Ben, ça, c'est un fait maintenant établi dans le sport professionnel. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, on se moquait de ça. Tu sais, la réponse à la fatigue des athlètes professionnels, c'était « voyons donc avec le million ». Comme si gagner des millions pouvait te mettre à l'épreuve de tout sentiment de fatigue. Là, je pense qu'on est rendu, on a évolué par rapport à ça, puis au préjugé que le salaire ne fait pas foi de tout. Ces gars-là sont... Puis le niveau de performance également, je pense, au niveau cardiovasculaire, c'est juste au niveau des déplacements des gardiens de but. C'est infiniment plus exigeant, sans déprécier le hockey d'antan, qu'autrefois, Stéphane. Fait que c'est encore plus pertinent aujourd'hui de la gérer, cette énergie-là.
Ben, c'était la vieille méthode, dans le fond, dans le temps. Là, c'est non, il n'y a pas de journée de congé. Nous autres, on est tough, on pratique. Si tu veux être meilleur, faut que tu pratiques à plus haut. Puis c'était la vieille méthode, là, c'était oublier, t'es pas fatigué. Non, c'est des excuses. Puis on travaille à tous les jours. À un moment donné, mais ça rattrapait les joueurs. Et puis, moi, mes débuts dans la Ligue nationale, je me souviens, là, un coach comme Brian Sutter, old school, c'est, on n'avait pas de congé. Puis maintenant, mais quelques années plus tard, la Ligue, l'association des joueurs a obligé toutes les équipes à donner une journée de congé par semaine aux joueurs parce qu'il y a des entraîneurs qui abusaient de ça.
Ben, sans aucun doute, hein. Des fois, on a beau dire que les mentalités changent, mais tu peux pas sortir le gars, la vieille école du gars qui est de cette époque-là. C'est pas si évident que ça. Il y en a qui ont réussi à se transformer, mais je salue Rémi qui nous écoute de Sorel et qui mentionne, je pense que c'est pertinent de le mentionner, que les gars ont eu une journée de congé pour l'avion qui avait brisé il y a 2 semaines. Je dis pas que c'est le remplacement de ça, mais en fait, c'est la semaine passée, je me trompe pas. Ouais, il y a 2 semaines. Tu sais, leur retour avait été retardé, c'est-à-dire au lendemain matin. Fait que le coach a pris ça en note. Maintenant, au plan hockey, il y avait un entraînement hier, Stéphane. L'atelier ou la thématique du jour rendu au mois de février, c'était le jeu devant notre filet.
Ouais. Tout ce que je peux dire, c'est enfin. Parce que ça fait déjà quasiment une couple d'années que je dis souvent, moi, juste qu'on défend mal devant notre filet. Puis, peut-être dans le terme de hockey, on appelle ça des puck watchers, où les joueurs sont tellement hypnotisés par la rondelle qu'ils n'ont aucune idée qui est derrière eux, ou qui s'en vient au filet, ou qui est libre en avant du filet, parce qu'on est on regarde toute la rondelle et non ce qui s'en vient dans notre dos. Et puis, c'est tellement évident dans le cas du Canadien, et spécialement trois buts le dernier match contre les Capitals, où est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une grosse difficulté avec le Canadien. Puis je blâme pas seulement les défenseurs, là. Contre les Capitals, c'était 2 fois, c'est un joueur d'avant.
Mais la couverture homme à homme fait en sorte que souvent, c'est un avant qui se retrouve comme le dernier élément à couvrir le gars qui saigne.
Oui, t'as tellement raison, Mario. Ça, c'est un autre problème. C'est que souvent, nos joueurs qui doivent surveiller les joueurs adverses de Manfilet, c'est des avants. Et puis des avants qui ont probablement jamais fait ça de leur vie, que ce soit un junior dans le midget ou n'importe quel niveau, mais rendu avec le système qu'on joue homme to homme, si ton homme se retrouve devant le filet, mais faut-tu suivre jusque-là. Et puis c'est souvent, c'est pas des joueurs qui sont bons là-dedans. C'est qui sont habitués à faire ça? C'est des gros défenseurs qui peuvent jouer l'homme devant le filet. Et c'est quelque chose qui est tellement évident à chaque match où je retrouve souvent. Souvent, un matin, j'ai revu tous les buts des Cavaliers et je mettais pause juste avant le but et je cherchais un défenseur. Je cherchais tout le temps un défenseur. Il manquait un défenseur dans l'image tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas cette façon de jouer là du Canadien. Et puis, ça fait 2 ans. Ça fonctionne pas.
Dans toutes tes années, 18 ans dans la Ligue, Steph, est-ce que ce qu'on appelle le man-to-man, la couverture homme à homme, est-ce que c'est un système qui a été préconisé par Joel Quenneville ou n'importe quel des entraîneurs qui travaillaient à Montréal, Chicago, non?
Moi, les entraîneurs, les 18 années, non, on n'a jamais joué ce système-là. Et puis, c'était beaucoup plus simple pour nos défenseurs. Comme Joel interdisait nos défenseurs de suivre un attaquant derrière le filet, l'attaquant voulait qu'il reste chaque côté des poteaux et éviter que ces gars-là peuvent sortir de derrière et aller devant le filet facilement. Ça, donc ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime pas. Probablement que des coachs qui aiment ça parce qu'il y en a qui le font. Et puis l'autre chose que j'aime pas, c'est que nos défenseurs, encore une fois, au lieu de focusser sur prendre les bâtons adverses ou s'occuper de faire ce qu'on appelle le box-out. Le box-out, ça veut dire empêcher, faire une interférence pour qu'un joueur s'installe devant le filet. Nos défenseurs les laissent passer tellement facilement. Pourquoi? Parce qu'eux, ils focusent sur une chose, bloquer des shots. Puis quand tu focuses sur bloquer des shots, pas tu regardes la rondelle. Donc, tu n'as aucune idée de ce qui se passe en entour de toi. Tu n'as aucune idée qui va aller s'installer facilement devant le filet. Tu n'as aucune idée qui va faire dévier des rondelles derrière toi. Et ça, c'est une autre chose que j'aime pas, la façon dont nos défenseurs jouent. Ôtez-vous de là. Le gardien de but, là, on lui donne un bel équipement qui coûte pas mal cher pour arrêter les mots justes de rondelle. Et puis, si le défenseur arrête pas le fameux block shot, le fameux lancer, mais tout ce que tu fais, c'est de nuire à ton gardien de but parce que tu obstrues la vue. Donc ça, c'est une autre chose que j'ai jamais aimé. Et puis, mais écoute, on a chacun nos opinions, nos façons de voir ça. Et même moi, personnellement, c'est quelque chose que le Canadien, j'aime pas la façon qu'on joue ça.
Ben, ça veut pas dire que c'est un système qui va résister autant. Je pense que Martin est ouvert à faire en sorte que beaucoup de choses évoluent, son système de jeu, dépendamment des joueurs qu'on va lui donner. Mais je sais pas c'est quoi la plus-value qu'il voit à continuer de poursuivre avec un système qui fait que le Canadien accorde autant de lancer aussi régulièrement. As-tu une idée en terminant, Stéphane, pour conclure, pourquoi on s'acharnerait à appliquer un système qui fait pas ses preuves? C'est parce qu'on n'a pas les bons soldats pour l'appliquer ou le système est...
Peut-être qu'on pense au contraire. Peut-être qu'on pense qu'on a l'équipe pour parce qu'on a des défenseurs très mobiles. C'est un système que l'année passée, un Joel Edmondson l'a fait très, très, très mal paraître. Et il avait l'air du pire défenseur du Canadien l'année passée quand il est revenu de sa blessure.
C'est vrai.
Pourquoi? Parce qu'il peut pas jouer ce genre de système-là où ça prend des défenseurs très mobiles. Peut-être qu'on se dit, nous autres, avec nos jeunes défenseurs, puis les Madison, tout ça, on est capable de jouer ce match-là. Je vois pas d'autres raisons.
Ben, c'est intéressant comme hypothèse de réponse, très certainement, Stéphane. Merci beaucoup. Bon début de semaine. En tout cas, tu as donné le ton et on se retrouve dans quelques jours, mon cher.
Excellent. Merci, Mario. Bonne semaine.
Bye, Steph. Bonne semaine à toi aussi.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.